bout du micro. Je vais vous demander de vous présenter.
Eh bien, André Drapier, viticulteur ou viticulteur, même pas en retraite, à Urville.
Vous êtes né où et quand ?
Alors, né à Fulgny. Né à Fulgny, dans l'Aube, la Côte de Soulaine, le 31 octobre 1926. Alors, je suis un jeune homme, vous voyez, de 85 ans.
Et que faisaient vos parents ?
Agriculteur également. Alors, je suis venu à la vigne par le mariage.
Mais ils étaient agriculteurs, quelle était leur exploitation ?
Comment ?
Leur exploitation.
Il avait une exploitation de 175 hectares, là, à Fulgny. Élevage en particulier, mais enfin agricole également. Et puis mon Dieu, qui a été reprise par un frère aîné. Et à l'heure actuelle, sur 7 enfants que nous étions, je suis le seul qui demeure.
Et vous étiez où dans la fratrie ?
Deuxième. Alors tout le monde est parti. Là, ça vieillit un petit peu le tempérament également, parce que on travaille avec les souvenirs, mais enfin, toujours est-il que.
Et vous avez connu vos grands-parents ? Vos grands-parents, vous les avez
connus ? Ah oui, mais ce sont eux qui m'ont élevé même. Parce que comme on était quand même, assez nombreux, ils ont dit à un moment donné à ma mère, tiens, tu ne sais pas, on va te dégager avec le deuxième. Parce qu'il en arrivait déjà à un troisième, voire un quatrième. Alors.
Et ils habitaient où ?
Domantel-Saint-Père dans la Haute-Marne. Domantel-Saint-Père dans la Haute-Marne. Et je me dirigeais, moi, si on veut, plutôt... à ce moment-là, parce que, paraît-il que je travaillais bien, vers l'éducation nationale. J'avais un instituteur qui nous poussait à l'époque. Puis j'ai fait l'école primaire supérieure de Joinville. Pendant la guerre, je suis revenu au collège à Marcerot. Et à un moment donné, quand il n'y a plus d'internat, je suis rentré dans le rang. Alors après, mon Dieu, le temps passe, le service militaire et le reste.
Et vous vous souvenez de l'école ?
Oh oui.
Raconter.
De l'école. Bon, vous savez, comme toutes les écoles, on travaillait dur. Hein, on avait des profs qui étaient exigeants. Hein. L'instituteur, déjà pour démarrer, c'était des anciens mutilés de guerre. Hein, on avait un curé mutilé de guerre, un instituteur mutilé de guerre, de la guerre de 14, naturellement. Hein. Et c'était des gens très, très exigeants. Et alors, ce qui faisait qu'on était des élèves, naturellement... qui répondaient à leurs exigences et qui nous ont obligés par là à travailler et à être, comment je dirais, avoir une instruction relativement déjà convenable à 14 ans. Et après, sorti de là, vers l'école primaire supérieure à Joinville, où c'était un peu militaire aussi, et où on travaillait encore très dur. Alors j'étais préparé, si on veut, je n'avais pas d'exigence. Je me serais contenté d'être instituteur de campagne et ainsi de suite. Mais bon, la guerre en a voulu autrement.
Vous vous souvenez de la déclaration ?
Oh oui. Oh, bah, en 44, c'est-à-dire en 40, j'avais quand même 14 ans. Hein. Et puis alors à partir de là, j'ai connu quand même dans l'armée allemande qui était en occupation ici, qui était au repos et ainsi de suite. Parce que je vous dirais même qu'à 14 ans, non pas à 14 ans, j'exagère peut-être, à 15-16 ans, je parlais l'allemand couramment, de par des professeurs qui nous... Tiens, on en parlait à la seconde. Qui nous parlaient un allemand de tous les jours. Si bien qu'un jour, un officier allemand m'a fait venir dans la cour en me demandant où j'avais appris l'allemand. Moi, je dis, à l'école, tout simplement. Ça les surprenait un peu, mais bon, bref. Et puis de la guerre, je ne l'ai pas faite, naturellement, puisqu'après ça, j'étais trop jeune. J'ai abandonné mes études de par la fermeture de l'internat du collège de Bar-sur-Aube. Et à partir de là, j'ai travaillé chez mes parents une paire d'années, 2-3 ans. Et après, il est venu le service militaire.
En quelle année ?
En 46, à 20 ans. J'avais 20 ans. Là, je me trompe pas. Et là, j'ai été secrétaire du médecin-chef de la place de Toul. J'étais sans l'avoir voulu. si bien que je passais, on passait les visites, les incorporations, ainsi de suite. Et c'est à partir de là que j'ai connu ma femme. J'avais pas encore l'habit sur le dos, mais presque. Et où je me suis fait, enfin je vais employer le terme, même si je suis enregistré, je me suis fait violer par une vigneronne, je dis ça en blaguant. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il fallait quand même du temps pour se connaître, et puis les filles étaient assez récalcitrantes, et on ne marchait pas au premier baiser. Hein.
Vous ne l'avez pas connu à Toul?
Non, non, non. Non, mon service militaire, je l'ai fait à Toul, et puis après ça, je suis revenu à Chaumont. C'était beaucoup plus près. Et puis, mon Dieu, j'ai passé un service militaire très agréable en rendant service à des copains. Justement, j'en voyais l'autre jour où j'ai. À l'époque, comme on avait le tampon, on trichait un peu, vous voyez déjà, pour aller en permission. Ça me permettait d'en profiter et puis de rendre service à des copains. Mais enfin, il n'est jamais arrivé d'accroc, jamais d'accident. Les jeunes gens, on n'était pas mieux que les autres, mais ils étaient sérieux quand même.
Et vous vous souvenez un petit peu de la vie sous l'occupation, vous étiez chez vos parents.
Je ne sais pas.
Vous vous souvenez un peu?
Oui, oh. On n'a pas souffert de l'occupation par ici. Hein. Moi, j'ai vu naturellement la ferme, les granges étaient remplies de soldats allemands, aussi bien qu'après j'ai connu les Américains. Hein, les uns ont remplacé les autres.
C'était la même chose à peu près?
C'était la même chose. Moi, j'ai vu les parcs à Fligny, où je pourrais vous montrer aujourd'hui. C'était occupé par les Américains, on voyait le matériel, et avant on a eu les Allemands. Bon, on n'a pas eu de, comment je dirais, on n'a pas connu de brigandage, hein, chez les uns comme chez les autres.
Ça a aidé le fait de parler allemand?
Oui, ça rend des services, mais j'ai ça me fait rire parce que je ne le faisais pas sentir. Hein. Je ne parlais que quand, pas nécessairement avec des Allemands. Hein, parce que. Moi, on avait des relations, mais c'était la preuve. C'était les soldats allemands là, qui avaient dit à leur officier, tenez, attention, le gosse parle allemand. Mais c'est à partir de là qu'ils m'avaient fait appeler en me posant la question, à savoir, mais on n'a eu aucune relation pour autant. J'étais trop jeune, d'ailleurs.
Et à l'âge où vous aviez, vous aviez envie quand même de sortir, de loisir, non?
Ah, mais après, mais pas à 14 ans quand même.
À 15,
Oui,
16
oui,
ans.
oui. Ah ben, c'est-à-dire, on avait des vélos, hein. On sortait en vélo, naturellement. Et là, on était contingenté en kilomètres, parce que fallait pédaler. Ça, c'était pas si facile que ça. Et malgré tout, Urville de Fluny, vous voyez, il y a 29 kilomètres. Alors, mais j'ai connu ma femme à Éclans, à un bal de. Il y avait les bals clandestins. Parce qu'à l'époque, bon, il y avait les bals clandestins, comme on les appelait. C'était bien comme tout, au contraire. Et puis, on a décidé de se revoir, et puis voilà, de fil en aiguille. Oui, j'ai pas besoin de vous faire des dessins. Vous êtes un beau garçon, vous êtes à la veille d'en faire autant.
Et ensuite, la fin de la guerre est arrivée, vous êtes quasiment parti dans.
La fin de la guerre est arrivée, ben non, je ne me suis pas marié. Là, je me suis marié en 51. Hein. Alors, on s'est fréquenté quelques années parce que, à savoir ce qu'on allait faire. C'est pas facile parce que c'est son père, du moins, disait, bon, lui, c'était des vignerons authentiques, mes beaux-parents, des vrais, hein, c'est-à-dire, c'était des foncièrement, c'était des gens qui aimaient la vigne. Mais malgré tout, ils tiraient, enfin, je vais expliquer, employer des termes, ils tiraient le diable par la queue. Vous savez ce que ça veut dire? Et à partir de là, on ne s'est pas marié tout de suite, naturellement, parce que j'ai resté chez mes parents, et puis elle restait. On s'est marié au bout de 3-4 ans. Je recherche les années entre. Attendez voir que. J'aurais pu me souvenir avec cette. Je me suis marié début 51. Alors, ça a pinaillé, vous voyez, j'emploie encore un terme français. Ça, quelques années avant de savoir ce qu'on allait faire. Moi, je n'étais pas disposé pour faire un vigneron, du tout. Et puis elle, naturellement, elle ne voulait pas quitter ses parents. Là, c'était le gros souci, le gros problème.
Parce qu'elle était toute seule comme fille.
Elle était deux, mais l'autre était partie. Elle était mariée déjà. Alors, si bien que de fil en aiguille, le temps passant, eh bien, il a fallu se décider.
Et à l'époque, il n'y avait pas de pression par rapport à se fréquenter et se marier?
Non, ses parents disaient après tout, bon, ils savaient que j'étais un garçon raisonnable, je suppose. Et puis elle, si elle continuait de me fréquenter, c'est parce que elle me faisait confiance. Mais on n'avait pas de prétention, on n'avait pas les moyens, on n'avait rien. Mes parents, moi, ne pouvaient pas me donner ce qu'ils n'avaient pas. Et puis ses parents étaient prêts à lui donner beaucoup, mais avec le peu qu'il avait. Hein, il y avait à l'époque 2-3 hectares de vignes, et des vignes, vous savez, de l'époque.
C'était quoi être vigneron à cette époque-là, vos beaux-parents?
Pour mes parents.
Pour vos beaux-parents,
Ah, mes
c'était quoi
beaux-parents.
être vigneron?
Ben, c'est-à-dire que la vigne à l'époque était mal vécue. La terre ne valait rien. Les gens s'en débarrassaient pour ne pas payer le foncier. C'est véridique. Et puis, pour des jeunes gens comme nous, vous savez, on ne se mariait pas pour le capital. On se mariait parce qu'on s'aimait bien. On va dire vraiment, quand on parle d'amour aujourd'hui, on parle de ça un petit peu en courant d'air. Mais là, non, on s'aimait bien, on n'avait pas du tout l'intention de se quitter. Et puis, c'était pas facile de se séparer. Alors, si bien qu'à un moment donné, quand on a décidé de se marier, et moi que je me suis dit après tout, pourquoi je ne ferais pas de la vigne, mais on savait que la vigne ne payait pas. Il n'y avait pas de revenus. Alors, si bien que, bon, on se mariait pour dire on se marie.
Et vous êtes venu vous installer?
Oui, je suis venu ici. Je suis venu ici parce que, en venant ici, on disait, bon, il y a toujours un petit viatique. On va essayer de le faire sortir de terre, on va dire. Et puis, quoi? Et c'est vrai qu'on a fait gentiment, en travaillant naturellement, parce qu'on a subi quand même dans les années 52 la loi, le réensauvagement, puisque le vin de l'Aube était dénigré, il faut en parler. Dénigré pourquoi? Parce qu'il y avait encore des gamets. Et le gamet, il était prohibé dans les vins effervescents. C'était pas, mais on critiquait les vins de l'Aube, et pour la raison que le gamet. Je me rends compte aujourd'hui que c'était malvenu, mais c'était des beaux raisins. Et puis voilà. Alors tous les gens qui avaient, que je me souvienne bien, 50 ans, en 52, avaient le droit d'avoir moitié-moitié. Tous les gens qui avaient 60 ans, en 52, avaient le droit de mourir avec. Et les jeunes comme moi, il fallait qu'ils plantent des pinots. Alors mon beau-père était déjà très en avance sur la question. Parce qu'ils l'ont appelé à un moment donné le père Pinot. C'était le seul, il faut le dire, dans la région, sur le plan du vignoble, qui avait planté des pinots. Il en avait en quelques surfaces. Et il est vrai qu'on s'est aperçu, parce qu'on ne faisait pas confiance aux pinots, on avait peur qu'ils ne viennent pas, ou qu'ils viennent mal. Parce que les gamets étaient beaux comme tout, gamets blancs, gamets noirs, et j'en passe. Et tout ça, on avait les négociants pour l'acheter. Il y a des canards du chêne, Cliquot et compagnie. Tous les raisins partaient en Champagne. Il y avait pas de fraude sur le problème. C'est pas comme la révolution de 1911.
Le gamay aussi, donc.
Ah, tout, tout, tout. Tout était vendu.
Et pourquoi est-ce que vos beaux-parents restaient attachés?
Ah, ben, il y en avait d'autres. Hein, quand je dis mes beaux-parents, ils étaient foncièrement vignerons. D'autres, beaucoup partaient, les jeunes. D'ailleurs, les jeunes fichaient le camp, pour parler français. Que ce soit dans la fonction publique, d'ailleurs, ce que je voulais faire, la gendarmerie, et j'en passe. Tous les jeunes de mon âge, on se comptait sur les doigts de la main, hein, ou à l'usine à Bar-sur-Aube. On allait aux forges, on allait ici, on allait là. Alors, j'ai fait partie des quelques imbéciles qui sont restés à la vigne. Je vais pas dire ça parce que.
C'était vécu comme ça par les autres? On vous a dit des choses?
Oh non,
aux copains.
Non, 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 on vivait la même vie. On n'avait pas de, on pouvait pas avoir de mots du genre. Il allait à l'usine parce qu'il avait besoin de faire de gagner sa vie. Ceux qui entraient dans la fonction publique, ils ont eu raison, ils s'échappaient du. Et puis surtout qu'on pouvait avoir, mais on n'y pensait pas, on pouvait avoir de la terre pour rien. Il n'y avait qu'à planter. Puis alors, les moyens de planter n'étaient pas. Ça va, il n'y avait pas de tracteur. Hein. On coupait les. Tout se faisait à la main. Il y a la pioche. Non, mais quand on y pense, c'est à mourir de rire, surtout aujourd'hui.
Et vos parents ont vu ça d'un bon œil que vous...
Il laissait faire. Hein. D'ailleurs, après tout, hein, quand on fait sa vie, ce n'était pas des parents qui nous mettaient le grappin dessus. Vous savez, famille nombreuse, il est occupé, il prend une direction, on le laisse faire. Il n'avait pas à s'interposer. Et parce que, ou alors, en s'interposant, il aurait fallu qu'ils me disent, tu vas faire autre chose, on te donne la main, on te donne les moyens. Par contre, ça s'est éclairci parce que quand on arrive tout de suite dans les années 51-55, ça s'est éclairci assez rapidement. Les plantations, on les a faites assez. On travaillait énormément. Quand je dis énormément, avec un grand T. On travaillait énormément et on a reconstitué quand même quelques hectares, je ne vais pas dire en deux coups de cuillère à peau, pour parler français, mais on les a reconstitués assez rapidement, puisqu'il faut quand même 3 ans ou 4 ans avant que ça ne fournisse quelques raisins. Mais on s'acharnait à travailler et on a réussi, si on veut, gentiment dans ces années-là, qui ont été très difficiles. Hein, entre 50 et 55, 4-5 années à. On travaillait, je ne vais pas dire 20 heures par jour, mais 15 heures par jour. Des droits de plantation, des droits d'arrachage, et enfin, on avait tout pour faire. Et il y avait la terre. Alors, pourquoi pas? Alors, il s'agissait de le faire. On n'était pas nombreux, mais enfin, certains autres l'ont fait. On n'est pas isolé dans la nature, pour autant. Mais peut-être qu'on a été. Plus rapidement. Je vais dire ça comme ça. Et puis alors surtout, ce que j'ai même dit après ça quand j'étais administrateur au syndicat général, les femmes, c'est 65% d'une exploitation. Et quand vous êtes doté, encore aujourd'hui, quand vous êtes doté d'une femme qui vous aide moralement, physiquement, et où il y a une entente parfaite, eh bien, vous savez, on avance à grands pas. Et puis c'est encore vrai aujourd'hui.
Et vous, quand vous avez commencé, début des années 50, vous aviez combien en termes de parcelles?
Eh bien, mes beaux-parents m'avaient donné une parcelle de 40, d'ailleurs que je vous dise pas de sottises, 40 arts. 40 arts et en pinot, s'il vous plaît. Ce qui nous permettait de les mettre sur le marché immédiatement. Alors c'était, si on veut, il avait été généreux dans sa donation dans la corbeille de mariage, parce que tout le monde ne pouvait pas le faire. Et puis à partir de là, j'avais donc une déclaration de récolte, et puis bon, on a planté à la suite, très rapidement, sur des terres qui l'ont donné. Et après, je ne vous dirai pas, l'enchaînement s'est fait, c'est facile à dire verbalement. Mais ça allait moins vite manuellement. Ou avec un cheval et une charrue, ça allait beaucoup moins vite. Mais enfin, bref, ça s'est fait parce qu'on y mettait de l'acharnement, de la bonne volonté, et puis un certain sérieux pour dire, on va se sortir du caca. Et dans le caca, on était, vous savez, on vivait pas comme des. Hein.
Vous viviez où?
Une petite maison qui était au-dessus, qu'on a démolie depuis. Qui est entré dans le corps de bâtiment, dans le corps de l'exploitation d'aujourd'hui.
Avec tout le confort?
Oh non, oh mais non. On avait une petite subvention du génie rural à l'époque où on avait deux pièces, hein, une cuisine et une chambre. Point à la ligne, il n'y avait pas de salle à manger, la cuisine faisait tout. des toilettes, vous savez, il n'y en avait pas à l'intérieur, on n'avait pas l'eau courante. Alors, si bien il y avait un petit coin, vous savez, comme dans beaucoup de maisons de l'époque, il y avait un petit coin dehors pour aller faire les besoins. Et puis voilà, on s'accordait comme ça. Dans les chambres, il y avait ce que vous avez peut-être connu chez vos arrière-grands-parents ou autres, un seau. C'est bête de dire tout ça, mais enfin, quand on remonte en arrière jusque-là, puis vous savez, on n'était pas les seuls. Certainement que c'était tout le monde. Il n'y avait pas de. Je n'ai pas connu de châtelain à Urville. Enfin, voilà.
Et alors, vous parliez tout à l'heure de. Vous disiez que tout se faisait à la main, justement. Si on reprend par exemple sur une année, comment est-ce que ça se passait quand vous êtes arrivé dans la vigne?
Oui, eh bien, c'est-à-dire que, bon, il y avait quand même des chevaux où les gens, les vignerons marchaient en entraide. Il n'y avait qu'un cheval, ici.
À Yonville?
Non, non, à la maison, chez mes beaux-parents. Mais alors, on se prêtait le cheval, un autre vigneron prêtait un deuxième cheval, si bien que il y avait des allers-retours de ces chevaux-là, avec une charrue. On arrachait les arbres à la main naturellement, parce que j'ai vu arracher les chênes, couper les racines à la main, ainsi de suite. Et après ça, naturellement, quand c'était libéré de toute la boiserie qui était là-dessus, des épines, des patali patala, eh bien, on labourait. Et on labourait qu'avec des chevaux, naturellement. Mais on se prêtait des chevaux autant. Puis alors, il y a une petite culture, il y avait toujours. Tiens, on en parlait tout à l'heure avec le gendarme qui était là. On faisait des petites moissons, il y a une petite agriculture à côté. Mais parce qu'il fallait vivre. Alors, on faisait des pommes de terre, on faisait des patates. Je ne dirais pas, bon. Mais si on se met à explorer la mémoire, vous savez, on peut parler pendant 8 jours. Hein. C'était terrible. Parce que, bon, j'ai vu, après ça moissonner, en moisson. On avait acheté lieuse et tout ça pour. Ah ben, on engrangeait. On faisait des céréales, du blé, du lait.
Il y avait combien de vaches?
Il y a eu jusqu'à 4 ou 5 vaches. Oh, il n'y avait pas de grosse écurie. Grosse écurie, mais c'est pas. Moi, j'ai jamais tiré les vaches, mais c'était ma belle-mère qui les tirait. Mais quelques litres de lait donnait la main sur le plan. Déjà pour manger, pour faire la soupe, et puis en plus de ça, pour vendre un bidon de lait au laitier quand il passait tous les matins. C'était un plus. On piochait les betteraves, on allait aux vignes. Alors, dans le même temps, naturellement, on ne va pas oublier la vigne. La vigne, elle arrivait, gentiment. On plantait 25 arbres, 30 arbres, 50 arbres. Après ça, on avait des autorisations d'un hectare par an. Ah ben après ça, ça. Ça a quand même, comment je dirais, avancé assez vite. Le Conseil général, l'interprofession donnait des subventions. Il y avait des concours de pépinières, on faisait des pépinières, nos pépinières nous-mêmes. Savez, on en écrirait un livre. Il fallait être occupé et puis aimer ce qu'on en faisait, aimer son travail, et puis avancer. Sortir de l'ornière, je dirais.
Et quand vous êtes installé, vous êtes installé agriculteur, vigneron?
Ah ben, vigneron, là, on est plutôt parti du côté du vignoble. Quand on a été, après ça, quand on est arrivé dans les années 60, au Pinot, l'intérêt, c'était carrément d'élargir le vignoble et de partir plutôt du côté viticole. Que du côté de l'agriculture, on l'a abandonné, on va dire. C'est tombé, c'est loué, ça a été loué à des agriculteurs après. Les parents avaient un petit bien, d'ailleurs qu'on a encore aujourd'hui, mais qui est loué.
Et à partir de quel moment ça a été un petit peu mieux?
À partir de 60, quand on a commencé, parce que dans le même temps, alors après ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on a eu ces bâtiments-là, c'était le presbytère d'Urville ici. Ça, c'est l'école des filles ici. Le presbytère un peu au-dessus. Et dessous, il y a des caves qui étaient reliées à l'abbaye Saint-Bernard. l'abbaye de Clairvaux. Alors, c'est les caves, à ce moment-là, puisque si on part du côté vignoble, indépendamment de la vigne, il a fallu. C'est surtout mon épouse qui était le promoteur là-dedans, mettre en bouteille. Elle dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en bouteille? Alors, j'ai donc été peut-être aussi un des premiers, en fonction de mon âge, à 25-30 ans, à mettre. On dit, on va mettre en bouteille. Mais ça ne se met pas du jour au lendemain non plus. Parce qu'il fallait être éduqué. J'ai eu un professeur merveilleux dans la personne d'un négociant en retraite qui m'a épaulé, qui m'a donné la main. Et puis, parce que je n'ai pas été à l'école d'œnologie.
C'était qui alors? De quelle maison?
Comment?
C'était qui et de quelle maison?
Chrétien Vaillère. Chrétien Vaillère, il était en retraite. Son fils a entré chez Mercier. Et puis lui, il s'est pris d'amitié peut-être pour moi. Et il m'a appris ce que je sais aujourd'hui. J'en ai appris depuis quand même. Mais enfin, il m'a appris pour démarrer, pour travailler. Et mon premier tirage, il faut le dire, il a été de peut-être bien de 1000 bouteilles. En 51-52. Et j'ai tiré, je me souviens encore, 5000 bouteilles dans les années 5 ans après. 5000 bouteilles, vous savez, j'allais voir Montin tous les matins, voir s'il était encore debout. Parce que c'était tout ce que je possédais. Mais il fallait, parce que pour mettre en bouteille, on ne pouvait pas vendre des raisins, il fallait garder le vin, il fallait acheter la bouteille vide. Alors vous savez, on courait après ce que je pense, sans arrêt. Mais enfin, il fallait démarrer. En fait, j'invente rien. Et puis, on n'allait pas trouver le Crédit Agricole pour acheter 5000 bouteilles vides. Alors, bon. Alors, c'est parti comme ça, gentiment. Et je vous dirais que, peut-être, vous allez me prendre pour un imbécile, mais on ne s'en est même pas rendu compte de la manière dont on avançait après ça, entre 55 et 60. Où d'un seul coup, en 60, je me suis retrouvé peut-être à tirer 10, 12, 15 000 bouteilles. Alors là, inutile de vous dire que la manipulation allant vers se développant assez correctement, le vignoble, on le faisait suivre en même temps. Moi, j'ai vu aller chercher de la terre chez des gens Vesoul, j'avais qu'une deux chevaux à l'époque, aller chercher de la terre chez des gens qui me disaient, oh, écoute voir, si tu veux cette parcelle-là, tu prends tout ou rien. Alors, on pouvait avoir. C'était énorme. Alors, je vous dis, ça se résume en deux mots. Il n'y avait qu'à travailler. La terre, on l'avait gentiment et pour rien. Et de l'autre côté, il fallait travailler à la cave. Je n'aurais pas eu les caves, j'aurais peut-être pas eu l'idée. Mais là-dessous, il y a les caves voûtées qui sont du XIIe siècle et qui m'ont permis, si on veut, d'autres n'en avaient peut-être pas. Qui nous ont incités à dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne les remplirait pas et qu'on ne continuerait pas de mettre en bouteille? Et c'est à partir de là qu'est venue la maison Drapier.
En quelle année?
Oh ben à partir de là, on a vraiment existé. Alors, je dois dire autre chose. C'est que mettre en bouteille, c'est bien gentil. Avoir le temps de vieillissement, il fallait savoir attendre. Mais il fallait trouver le client. Parce que sans client, vous savez, on va pas loin. Alors, mon père, justement, était au collège avec Georges Marcot, qui était le propriétaire des cristalleries de Champagne, des verreries de Bayel, autrement dit. Et un jour, il vient me voir et me dit, écoute, voir, si tu as l'intention de travailler et de continuer dans cette voie-là, notre service commercial pourrait te donner la main. Vous savez, j'ai roulé des yeux, puis j'ai dit bon. Et ça a suivi. Tous les samedis, son directeur commercial nous amenait des petits bons de 12 bouteilles, 24 bouteilles à livrer ici, là, à condition de faire les choses raisonnablement. Hein, il fallait que le vin ait maximum 2 à 3 ans. Alors il a fallu savoir attendre, mais enfin, j'ai eu des beaux-parents charmants qui m'ont fait confiance. Puis quand on dit ce garçon-là, ben on va l'aider, quoi. Il voyait que, puis indépendamment de ça, je vivais avec leur fille, enfin on était mariés, hein. Mais je veux dire par là qu'ils m'ont fait confiance aussi, et ils ont presque donné ce qu'il avait, le peu qu'il avait à l'époque. Alors tout ça, de fil en aiguille, inutile de vous dire que le reste, je dis pas que ça a roulé tout seul, il fallait continuer de travailler, mais de 3-4 hectares, 5 hectares, on a sauté entre 60 et 70, ainsi de suite, à 10 hectares et 15 hectares, et ainsi de suite. Les hectares venaient, on avait le droit de planter un hectare par an, voire plus. Ça a été très vite. Et on arrive à la vinification et à la vente du champagne, à l'explosion, je dirais, de l'ère délimitée des plantations dans l'Aube. Parce que dans le même temps, ce qui m'a rendu service, je vais le dire aussi, ça ne m'a rien rapporté, mais le fait d'être au conseil d'administration du syndicat général, j'ai ouvert les yeux. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux et aussi de m'instruire, puisque j'avais affaire à des gens qui étaient du métier, puis on s'est pris en amitié. Il n'y a pas eu la guéguerre. Là, on ne parle plus de 1911, mais où j'ai eu des très bons amis et où j'ai appris aussi à vivre en communauté, dans la grande communauté champenoise, et puis où je me suis instruit tous les jours sur la manière de faire, de voir les choses, et de travailler, on va dire, d'exploser. Bon, quand je dis exploser, entendons-nous.
Alors, avec 40 arts, on peut travailler tout seul.
Oh, 40 heures, oui. Il y a pas
Mais
du, y a, y a...
vous n'êtes pas resté longtemps avec 40
Non,
arts.
mais il n'y a pas du travail pour toute l'année. Parce que dans le même temps, avec mes 40 heures, j'aidais mes beaux-parents à faire ce qu'ils avaient à faire. Hein? Pas l'oublier. Ce qui veut dire qu'on faisait plus de 40 heures. Et au fur et à mesure qu'ils en lâchaient du lest, on s'élargissait par ailleurs. Que eux, ils avaient, en gros, c'était des gros vignerons de l'époque, mais qui, vous savez, ils avaient en gros 4-5 hectares. Hein, Gamay, Pinot, tout ce que vous voulez.
Et oui, ils vendaient leurs raisins, ils
Ils vendaient
vendaient
leurs
quoi?
raisins à Canard, c'est Canard Duchesne qui venait charger. Et on a continué de vendre tout en plantant, on a continué de vendre à Canard. Je n'ai pris, moi, ma liberté totale que quand mes beaux-parents sont décédés, si on veut. Ça a été dans les années 70.
Et il y avait un pressoir ou eux,
Oui,
ils
ah
avaient un...
oui, ah ben ils avaient un pressoir. Ils avaient un pressoir en communauté avec des cousins qu'on faisait travailler, on travaillait ensemble. Alors on pressurait, on rentrait le vin ici dans des demi-muits. J'avais fait une petite cuverie, alors là. Parce qu'attention, on parle de vignes. Mais après ça, il faut faire suivre les bâtiments. Cuverie et j'en passe. Ah mais c'était incessant. Il fallait faire tout à la fois. Alors on avait fait une petite cuverie. À l'époque, j'étais heureux comme tout quand je regardais ma cuverie. Je me disais, c'est vrai qu'en 10-15 ans de temps, en travaillant, on s'est vu partir, quoi. Mais on n'y pensait pas. Ça se faisait inconsciemment. Vous allez me prendre pour des imbéciles. Mais non, il s'agissait de dire, on aime ce que l'on fait, on fait ce que. On va faire de la bouteille. Je vois mon beau-père, moi, il était à la tireuse. J'empruntais. Alors, on se donnait la main. Il y avait une entraide mutuelle avec des voisins. Ils venaient tirer chez moi, j'allais tirer chez eux. Vous voyez, parce qu'il y avait Il y avait des petits tirages tout partout. Mais enfin, c'est peut-être moi qui ai développé le plus rapidement et le plus gros morceau.
Avec toutes ces entraides, vous n'avez pas pensé à un moment donné à faire une coopérative?
Non, ils s'en faisaient une dans le même temps, mais non, on n'a pas pensé à entrer dedans. Pourquoi, j'en sais rien.
C'était quoi dans le coin qu'il y avait?
Il y avait une coopérative. La coopérative s'est faite dans le même temps ici. Et
Elle
je l'ai.
avait un nom?
Non, c'est la coopérative d'Urville, purement et simplement.
On vous a proposé ou pas de rentrer?
Non, même pas. Non, parce que j'avais des cousins qui étaient avec moi, qui n'étaient pas coopérateurs non plus, ou qui n'ont pas entré dedans. Alors on s'entraidait, et même des gens qui sont à la coopérative aujourd'hui, qui. Non, parce qu'ils n'avaient pas la même ambition, peut-être. Alors, je vous dirais que l'ambition que je pouvais avoir, Ça s'appelait peut-être pas de l'ambition, parce que dans le même temps, on parle de la vigne, on parle du vin. Mais alors, on n'avait pas de bâtiment. Il y avait les caves, mes cuveries, et j'en passe. Alors bon, inutile de vous dire que vous pouvez faire un tour aujourd'hui. Je vous dirais, il a fallu, ça a démarré, non, après, premier bâtiment en 78. Qu'est-ce que je raconte? Tôt. Tout ce que vous voyez, cette tranche de bâtiment-là, on l'a démarré en 60, parce que c'est en profondeur par là, on l'a démarré en 70. C'est pas si vieux que ça. Puis après ça, il y a eu 80, il y a eu. Parce qu'après ça, vous savez, on court après ce que je pense. Je vais pas dire les termes, que ça serait malvenu. Mais. Il n'y avait pas assez de vignes, pas assez de caves, pas assez de bâtiments, pas assez de bâtiments d'exploitation. Alors, il faut tout faire venir en même temps. Mais là, quand même, on a eu affaire au Crédit Agricole après. Là, je vous dirais que la première tranche de bâtiments, d'ailleurs, je pourrais vous dire un chiffre que j'ai encore en tête, hein, puisque bon. Tout ne sera pas publié, je suppose. Mais il y en avait pour 48 millions. 48 millions de francs de l'époque. Alors ça, c'était en 69-70. Et Crédit Agricole m'a fait confiance également. Parce que tout le monde ne pouvait peut-être pas le faire. Mais alors avec ça, on a fait des bâtiments qui m'ont aidé à exploser. Encore plus rapidement parce que cuverie, salle d'expédition, j'en passe, quoi, je ne vais pas vous faire de dessin. Vous savez, tout ce qui comporte, ce qui compose une maison de champagne aujourd'hui, mais en petit. Et 10 ans après, quand mon fils est revenu, le gamin grandissait naturellement, il a été travailler en Californie chez Chandon, parce qu'on avait de bonnes relations. Alors là, on a refait une autre tranche de bâtiment. De l'autre côté de la rue, où on a fait un tunnel, c'est les douanes qui m'ont dit, parce qu'on faisait les papiers, on ne pouvait pas transporter du vin comme ça. On a passé sous la route, on a fait un tunnel pour aller dans le bâtiment de l'autre côté avec des chariots élévateurs et j'en passe. Avec d'autres pressoirs. Mais bon. Il y a eu une envolée qui fait que. Depuis, il y a eu deux, trois tranches de bâtiments, plus des bâtiments climatisés, puis bon.
Est-ce que la prospérité rapide fait réfléchir?
Oui, ah ben non, on ne faisait pas ça en l'emporte-pièce. Hein. Il fallait. Je ne peux même pas dire, c'est même pas de l'ambition. Je voulais avancer dans le temps, puis alors, comme je vous ai dit. En allant épernay au conseil d'administration, j'ai visité des exploitations qui m'ont dressé des graphiques. Vous savez, ça ne vient pas, j'étais pas ingénieur. Hein. Alors, mais j'ai visité des exploitations où je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Naturellement, c'était des gens qui étaient déjà en place. Hein. On ne fait pas la même chose du jour au lendemain. Mais, je veux dire, on peut vous le dire, vous savez, dans l'environnement, on dira drapier, bon ben, il travaillait, quoi. Hein, c'était, travaillait pas. Puis alors, ce qu'il y a, ce qu'on m'a dit au conseil d'administration, même à un moment donné, on avait beaucoup d'Espagnols. J'ai fait venir des Espagnols, parce que ça, faut penser à la main-d'œuvre. Hein. On avait la terre, on avait l'outil de travail et la. À un moment donné, on est jusqu'à 10 Espagnols qui ont resté ici 20 et quelques années. Et des travailleurs également. Et des gens de la vigne, de Pontevedra là-bas, des gens qui travaillaient la vigne. Qu'avait le sécateur en main. Je veux dire, ben, tout ça, c'est l'outil de travail. Ces gens-là sont restés une vingtaine d'années. Et puis, bon, on est encore en relation d'ailleurs. Mais et c'est là que les gens de la Marne me disaient, tu vas faire du vin espagnol. Mais il n'empêche qu'on a monté, On a fait venir des Pinots et ainsi de suite, et j'en passe, quoi, comme tout le monde. Hein, comme, on se rapproche, si on veut, de la situation d'aujourd'hui. Hein. Après ça, on n'a fait que de grossir, et puis de. Et après ça, en ne vendant plus de raisins, il fallait la commercialisation. C'est encore un autre domaine.
Vous avez arrêté de vendre le raisin
Ah oui,
complètement.
totalement.
Quand?
Oh, dans les années. Quand mon fils est revenu en 80, on n'en vendait déjà plus de raisins, même avant. Ça n'a pas mis longtemps, 30 ans, pour mettre une entreprise debout. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Parce que souvent, je dis, ou j'ai dit dans mes discours, le peu que j'ai pu dire au micro, c'est que faudra avoir deux vies. Une vie pour travailler et l'autre pour la vivre. Malheureusement, on clôt le budget avant.
Et quand vous êtes rentré dans les fonctions que vous avez occupées,
Comment?
vous avez occupé des fonctions au niveau de...
Ah, oui, ça c'est. Alors je vous dirais, c'est pas héréditaire, mais c'est mon fils qui m'a remplacé en 80.
Mais vous, comment vous êtes rentré dedans? On vous a demandé pourquoi vous êtes rentré, vous avez voulu vous engager?
Non, non, ça, on est venu me demander. Il y avait Georges Lucot à l'époque, il y avait les vieux qui ont démarré l'Aube, qui était le président de l'Aube. On vous a jamais parlé de Georges Lucot? C'était un des fondateurs, si on veut, de l'Aube. C'est un personnage, c'est un ingénieur horticole, lui. Et à un moment donné, alors lui, ça remonte au départ, en 51, 52. Quand il m'a dit, quand il a vu qui j'étais, certainement, je ne vais pas dire que j'étais un monsieur, mais enfin, il m'a demandé d'aller avec lui au conseil d'administration Épernay. Et puis alors après, il y a eu Pierre Gillet, le père à Laurent Gillet d'aujourd'hui. On était tous les trois. Et puis après, ben, on en a fait entrer d'autres. On a étoffé les représentants de l'Aube au syndicat général des vignerons. C'est là que, si on veut, qu'on a pris notre essor en même temps. Mais j'ai été quand même avec le père Lucot à des promoteurs, si on veut, où on a essayé de réveiller quand même la jeunesse. On va dire ça comme ça.
Il y avait besoin.
Ben parce que, oui, certains n'y croyaient pas. On disait, vous savez, les filles de vignerons, elles se marient avec des agriculteurs. Parce qu'on disait, du côté agricole, on est plus à l'aise. Ceux qui restaient à la vigne, comme je vous l'ai peut-être dit déjà un peu tout à l'heure, c'était misérable, la vigne. On n'y croyait pas, donc on a mis quand même de 50 à 60 pour essayer, on le sentait nous-mêmes, pour essayer de sortir du rang. Ça n'est pas venu tout seul. Et puis alors, pendant tout ce temps-là, justement, j'ai resté 32 ans au syndicat général des vignerons en tant qu'administrateur. Et dans le même temps, la Chambre d'agriculture, parce que j'ai fait partie des jeunes vignerons où on se cramponnait. Et j'en ai amené d'autres avec moi. Mais c'est Père Lucot, le responsable, et Pierre Gillet, qui m'ont accompagné, avec Pierre Maury, qui a été le fondateur de Lucavic, qui était un ingénieur et un bon camarade, où on a marché la main dans la main. On était une équipe. Je n'ai pas marché individuellement, tout seul dans la nature, hein, ça ne serait pas fait, puis je n'aurais pas pu le faire. Mais avec de l'aide, et puis une aide morale, une aide constructive, de gens qui mettaient pas les pieds dans le même sabot. On vous a jamais parlé de Père Lucot, de Georges Lucot. Curieux. Parce que lui, ça a été un des promoteurs de l'Aube, comment je dirais, pour réveiller, après ces événements-là dont on parle, mais après la loi de 1927, il est comme moi, il a démarré après la guerre. C'est un ingénieur horticole de Landreville, et où ce monsieur-là, comme Gaston Schenck, on va dire, c'était à peu près le même genre de bonhomme, mais pas de la même époque. Et Georges Lucot, il mérite qu'on ne l'oublie pas. Un peu comme Pierre Maury, qu'a démarré Lukavik et qu'a eu l'idée, lui, de faire l'union des coopératives envers et contre le syndicat général des vignerons, qui n'était pas tout à fait d'accord, mais où Pierre Maury a eu une personnalité aussi, et où c'est quand même lui le papa, on va dire, de Lukavik, ou du champagne de veau d'aujourd'hui. Ces gens-là, on a tendance à les oublier. Hein. Et pourtant, ils se marient avec ce que je vous raconte au sujet de Drapier. On est de la même essence, sans plus. Et Pierre Maury, on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues aussi. Hein. Mais. Eh bien, parce qu'on ne voyait pas une union de coopératives dans l'aube. Ça, c'était. Oh, je ne vais pas vous citer de noms ni des personnages, mais là aussi, dans la Marne, il y avait des gens qui étaient encore marnais, vous savez, je ne dis pas anti-aube, non, je n'irai pas jusque-là, parce que j'ai pas mal pensé. Mais on sentait qu'il y avait une réticence de la part de l'organisation champenoise.
Donc, les problèmes venaient outre département.
Oui. Non, mais puis ça s'est fait quand même. Mais Pierre Maury, c'était un monsieur. Alors, je vais pas sauter. Georges Lucot, Pierre Maury, moi je ne suis. J'ai vécu pas dans l'ombre de ces gens-là, mais comme eux, les mêmes problèmes, et c'est peut-être aussi ce qui m'a dérouillé. Parce que j'avais affaire dans Pierre Maury, non seulement un bon ami, où on a été à Montpellier ensemble, pas à l'école, mais enfin, je veux dire que on était délégué par le syndicat général des vignerons pour trier les bois greffés. Ce qui fait que ça permettait, si on veut, de vivre ensemble un internat extérieur.
Trier les bois greffés.
Les bois greffés. Oui, parce qu'on greffait, on faisait des pépinières. Et on allait trier les bois à greffer, enfin, ou contrôler les bois greffés qui sortaient de chez Gendre, une maison de bois greffés, de pied-mère, on va dire de porte-greffe.
Parce que ça s'est organisé comment?
C'était organisé par le syndicat général des vignerons.
Mais par exemple, les pépinières, comment ça s'est organisé? Vous vous souvenez?
Comment?
Les pépinières, comment ça s'est organisé? Vous
Ah
vous
ben
en souvenez?
on les faisait nous-mêmes. Chacun était maître de sa pépinière. Hein. Moi j'ai vu faire des pépinières ici et derrière. C'est construit à la place maintenant. Mais des pépinières, c'était un travail. Hein. Mais on faisait ça très bien. Et on a fait nos plans parce qu'on n'avait pas les moyens de les acheter. Parce que tout est question de moyens. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de pépinières comme Guillaume, comme autres. On les faisait nous-mêmes. Et on allait chercher les greffons dans nos vignes, on savait, on triait les greffons.
Et comment reconnaître un bon greffon d'un mauvais?
À la vendange, ou avant les vendanges. Les plants, on les connaissait. On fichait un petit coup de peinture, rouge sur ceux qui avaient du sang, vous voyez. Non, mais. Forcément, je vous comprends, c'est bête d'expliquer tout ça, mais je veux dire, les greffons, on les avait sur des plants marqués. On les identifiait avant de couper les greffons dessus, quoi. Puis année après année, on changeait de peinture. Parce qu'il n'est pas dit que le bon sujet de cette année serait le même l'année d'après. Vous savez, fallait ouvrir les yeux. Mais on y est arrivé comme ça.
Il y avait un rapport particulier avec chaque parcelle, avec chaque plan.
Avec certains plans, oui. Puis il y avait des parcelles pour. C'est-à-dire, tout dépend comme ça a été, comme on a démarré, si on veut, ce qu'on appelait de la sélection clonale. Ça veut dire que c'était de la sélection clonale, on prenait les bons plans. Hein. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Année après année, on est arrivé, si on veut, à avoir une sélection très convenable. Qui aujourd'hui peut-être demeure encore, ce sont les enfants de ces plans-là, mais on faisait du bon travail, ça prenait du temps. Ça, là encore, c'était du temps. C'était la vigne dans toute sa. Comment je dirais ça, un petit peu comme les bons sujets. Hein, on essayait de repérer, si on veut, tout ce qui pouvait, et on se trompait pas beaucoup. Il y avait quelques déchets, mais ça s'est pas mal passé. Mais si Drapier faisait. Un tel le faisait par ailleurs, ainsi de suite. Mais guidé en ça, j'ai quand même eu là aussi un bon professeur dans la personne de Pierre Maury, que je respecte encore et que je vénère, parce qu'il avait plus de capacité que moi. C'était des gens qui étaient instruits en la matière à travers l'école d'ingénieurs de Montpellier. C'était des gars qui avaient autant m'a appris à faire le vin avec Chrétien Weyer, autant m'a appris à travailler la vigne avec Pierre Maury. Et il n'a pas montré que moi. Vous savez, il a fait le tournée du vignoble. Après ça, il a été payé. Je ne sais pas qui c'est qui le rémunérait, si c'est la Chambre d'agriculture ou le CVC, ou les deux. Il n'était pas venu ici par hasard. Il est venu, ça devait être par l'interprofession, par le CVC. Et en plus de ça a été un bon instituteur, un bon professeur pour les vignerons. Mais tout particulièrement, on s'était attachés l'un à l'autre et puis on a fait des belles choses ensemble.
Vous parlez de viticulteurs, vignerons, la détermination qui vous correspond le plus, c'est laquelle?
Oh, viticulteur, vigneron, viticulteur, c'est comme cultivateur et agriculteur. Hein. Non, je pense que c'est la même famille. Hein. Il n'y a rien qui puisse les détacher de par une supériorité ou une infériorité quelconque.
Mais vous êtes quand même plus vigneron ou viticulteur?
Là, vous me posez une colle. Parce que c'est vrai que j'ai été vigneron. Viticulteur, c'était pas un terme qu'on employait, c'était plus. C'est plus compliqué, c'est plus difficile à mâcher, oui. Non, mais c'est vrai. Viticulteur, pourquoi dire viticulteur alors que, en fait, l'homme de la vigne, c'est un vigneron. C'est beaucoup plus simple. Pour en parler, déjà, d'une part.
Et vous avez un attachement à la terre?
Oui. Mais parce que. Je dirais que sur le plan solidité de l'exploitation, c'est encore la terre qui demeure et qui demeurera. La terre, c'est ce qui rapporte le moins. Ça rapporte moins que l'immobilier ou tous les placements de l'argent dont on parle aujourd'hui. Ça fait en gros 1% l'an. Mais c'est un placement qui demeure et qui se transmet. Et j'y crois. Alors ceux qui le vendent, et ça arrive aujourd'hui, que des héritiers se séparent. C'est une hérésie. Ou alors ils n'ont aucun attachement. Mais si vous aviez de la terre, pas un grand-père ou un grand-oncle, eh bien essayez de la garder et de la faire fructifier. Oui, je vous dis tout ça avec le sourire.
Et c'est ce que vous vouliez pour vos enfants, vos petits-enfants?
Oui, je pense qu'il y aura une suite. Là, ça m'embêterait que j'ai un fils, la preuve, il n'y en avait qu'un, qui a continué, qui marche très bien. Je ne sais pas si on vous en a parlé, mais qu'a dû de ça, la preuve. Tétinger l'autre jour là, est venu chercher pour ça, parce qu'il est entré parmi les grands aussi. Hein. Là, ils sont 5 ou 6 avec Bollinger et autres. Et Rödrer à faire, parce que pendant 2 ans, ils font le tour du monde. Ils viennent de faire l'Australie, la Chine, Pékin. Ils viennent de faire Stockholm, Turin. Ils retournent peut-être bien la semaine prochaine, ou ça doit être ce mois-ci, à Lausanne. Et puis ils l'ont fait Londres, ils vont faire New York et compagnie, quoi. Ils représentent la Champagne, c'est l'ordre des coteaux de Champagne. Et alors où ils intronisent des personnalités pour les ancrer un petit peu dans le monde du champagne, voire faire des futurs clients s'ils n'en sont pas déjà. Non, mais c'est bien mené. Et en ce moment, c'est Michel Drapier qui mène la danse. Et vous voyez, ça, je l'ai pas voulu. Alors quand il a été chez Chandon en Californie, c'est pareil, bon là on sort des gonds, des vignobles de l'eau, mais je connaissais naturellement chez Chandon Maudière, qui était le patron, si on veut, des vignobles, qui sortait de chez Mercier, puisque bon. Tout ça, c'est la même boutique. Mais, et où il m'a dit, tiens, ton fils, il peut très bien aller en Californie. C'était le souhait de Michel également. Et là-bas, et c'est pareil, il a fait les cartes, il a fait la cartographie par hélicoptère des vignobles qui venaient de venir au monde de chez Chandon. Que j'ai été voir également, naturellement. et où je me suis aperçu que là, il y avait une autre méthode de travailler. On voit les choses américaines après, vous voyez. Mais c'est à voir.
Une autre méthode?
Ben, c'est-à-dire. Hein?
C'est pas 40 ans.
Non, c'est pas 40 ans. Non, mais 40 ans, bon, ils existaient aujourd'hui, on a mieux que ça quand même. Mais enfin, bon. Mais vous savez, je vais vous dire sans prétention aucune, parce que j'ai peut-être l'âge que j'ai la sagesse, je n'ai jamais eu d'ambition à dire on fera ceci, on fera cela. C'est venu normalement en travaillant, accompagné par une personne que vous voyez, dont le fils tient à la voir paraître là, c'est pas moi qui l'ai mise là parce qu'elle me surveille nuit et jour. Je vous dis ça. Mais il est vrai que bon, c'est comme ça parce que les gens disent ici dans la maison, la patronne, tout le monde dit encore la patronne, elle est décédée il y a 4-5 ans. Mais c'était un phénomène dans le domaine aussi. Il y a des gars comme Gouttor, Bedaï, tout ça, les Marnais qui sont venus au deuil. Inutile de vous dire que tout le monde l'a. On en parle encore. Il l'a appelé la Jeanne d'Arc du département, d'ailleurs. Oui, et je vais vous dire pourquoi, là aussi, c'est qu'à une réunion des vignerons où ça n'allait pas très bien, il n'y avait encore pas. Eh bien, elle avait intervenu contre le président de l'Union des négociants, qui était François Dolan à l'époque, et où elle est intervenue pour défendre le vignoble. Et alors, les vignerons Marne et Aube, tout le monde a applaudi, et puis, vous savez, c'est là qu'elle avait mérité le surnom de Jeanne d'Arc de l'Aube. Enfin, on a parté. Hein.
Tout de même.
Hein?
Tout de même.
Oui, ah ben oui, non mais c'était encore un cas entre tant d'autres. Non mais on a vécu, à partir d'un certain nombre d'années, toute une histoire forcément, et de la maison de Rapier, et du vignoble de l'Aube, il a fallu tout amonter en même temps.
Et la qualité?
Alors la qualité, aujourd'hui, ben, vous savez, on a peut-être des prétentions, mais il n'y a pas de problème pour celui qui veut bien travailler, puis il y a des outils de travail maintenant, tant en coopérative qu'individuel, où on a tout pour faire.
Et la qualité du champagne, quand vous avez commencé à commercialiser vos bouteilles et aujourd'hui?
Eh bien, si on s'est fait un trou à l'époque à travers les cristalleries de champagne, c'est parce que ça a plu, au nord comme au sud. On arrivait, si on veut, on faisait du bio sans le vouloir. On parle de bio aujourd'hui, mais on ne tripotait pas les vins, on ne traitait pas, il n'y avait pas d'insecticides, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela. Il venait ce que la nature nous apportait. C'est pas compliqué à dire, c'est pas. C'est simple à répéter, c'est la vérité. Et une vérité tout ainsi.
Il n'y avait pas de sulfate, il n'y avait
Ah
pas.
ben si, on traitait. Alors, on traitait au sulfate de cuivre. Hein, on traitait au sulfate de. Ah ben, obligatoirement. Là, ça, le mildiou, l'a toujours été là. Mais il fallait passer à l'heure. Alors, il y a eu des loopings, naturellement. On a eu des. Vous savez, je vais vous dire une chose, même idiote, mais qui existe, et que certains pourront vérifier. C'est que, en même temps, souvent, où il fallait aller traiter la vigne, où c'était le moment, derrière les orages, derrière ceci, derrière des intempéries, eh bien, il fallait encore aller faire des betteraves pour nourrir les vaches. Quand on emmenait deux choses à la fois, c'est pour dire, mais ça n'a duré qu'un temps. Ça n'a pas duré ça, je vous dis ça. On revient là, au début de l'histoire. Mais ça existait.
Dans les années 50.
Dans les années 50, entre 50 et 60. Et là, en fait, c'est ce que je dis souvent, je leur dis encore aujourd'hui, on faisait du bio sans le savoir, mais un vrai bio. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des bio qui trichent. Bon, inutile de vous dire que quand il faut passer le vin, ils vont le chercher chez le voisin. Pas vrai?
Pas de la partie.
Pas méchant en disant ça,
Et tout à l'heure, vous sembliez dire que Aube et Marne, entre entre les Aubois, les Marnais, il y avait les tensions.
Il y a eu des tensions, oui, c'est vieux. Là, aujourd'hui, je ne pense pas. Moi, j'en ai jamais eu. Et j'ai toujours eu des bons rapports avec tous les gens que je connais de la Marne. Toujours des bons rapports. Peut-être que j'étais un individu pas comme les autres, j'en sais rien. Où il n'y a jamais eu de tension. On sentait que dans les années, tout de suite après la guerre, j'ai eu une réflexion même un jour. J'avais emmené des bouteilles chez un ami à Moussy. Là, je vais vous raconter une histoire vraie. Et j'avais emmené pour. Ils étaient en train de tirer justement. C'était un bon ami. Et on débouche les bouteilles. Et les gars qui travaillaient là, oui, des ouvriers vignerons, marnais, disent, oh, ça ne mériterait pas de faire du champagne. Ça m'avait quelque peu blessé, mais je n'ai même pas redressé le tir. Je dis, cause toujours, mon bonhomme, c'est tout. Mais on sentait malgré tout que ça pouvait se dire dans les chaumières, hein, où on dit les vins de l'aube. Mais il y avait quand même, justement, ce que je vous ai dit tout à l'heure en entrée, il y avait quand même du gamay dedans. Et ça, je conçois qu'aujourd'hui, vis-à-vis de ces vignerons-là de la Marne et d'autres, je ne comprends même pas qu'un certain négoce, et puis, mais enfin, ce qu'il leur fallait, c'était, si on veut, c'était du volume. Et puis, je vais dire autre chose, ça allait en s'éteignant. Hein, ça n'a pas duré. Moi, j'ignorais que quand j'ai démarré, et puis on sortait de la guerre. Alors, ça n'a duré que quelques temps. Hein. Et quel volume, ça, je ne peux pas vous en parler, parce que ça ne devait pas être terrible. Hein. Les vignes, c'était des vignes qui avaient été replantées après 1900. Alors, vous vous rendez compte, elles avaient. C'était des mémères.
Et vos beaux-parents vous ont parlé du phylloxéra, des événements de 1900?
Non. Non, on en parlait beaucoup moins à l'époque que maintenant. Maintenant, si on veut, on remémore. Mais autrement, non, quand on travaillait là, moi je vous dirais qu'on n'en a jamais tant parlé que ces années-ci.
Et quand est-ce que vous avez appris ces événements-là?
Ah ben on les ignorait pas. On ne les ignorait pas. Moi, dans l'histoire du département, dans les années 50-60, on savait que il y avait eu la loi de 27. Pourquoi? Pour la bonne raison, c'est qu'à un moment donné, l'aube avait été déclassée. Et puis, bon, ben, ils ont bagarré pour obtenir à nouveau l'appellation. Il fallait rattraper ce qui était perdu.
Mais ça s'arrêtait là.
Ça s'arrêtait là. Non, ils n'étaient pas vindicatifs. Moi, j'ai connu seulement des histoires où ici, soi-disant que j'avais une tante, de ma femme, qui avait été pendre le drapeau de Guillaume au clocher. Parce que nous, il avait mis nos coteaux à Guillaume. À un moment donné, quand n'y avait plus rien. C'était local. La presse n'a pas fait état quand c'était occupé par la troupe. Oh ben, si on veut, bon. Ici, il y a même eu une femme qui avait emmanché son parapluie dans les naseaux du cheval du colonel, qui s'est redressée. Tout ça, c'est des histoires que j'ai entendues. Hein. J'étais pas là pour le voir. Mais c'était des histoires. Mais des histoires vraies.
Qu'est-ce qu'on racontait d'autre?
Comment?
Qu'est-ce qu'on racontait d'autre comme histoire?
Savez. Moi, j'ai connu que ces deux fêtes-là, hein. Nos coteaux à Guillaume. Bon, certainement que. Mais les gens se défendaient, je les comprends. Je les comprends, d'ailleurs, ils ont réussi. Hein. Mais ça n'a été réintégré l'aube qu'en 1927. Sans ça, je ne serais pas là non plus. Hein. Mais je les comprends. Et puis, quand on parle des bataillons de fer, tout ça, je n'ai pas connu, naturellement. Eh bien. Quand on la pète, hein, quand on pète la faim, comme dis-moi, ben, savez, ventre creux, hein, n'a pas d'oreille. Hein. On dit ça. Mais ça devait être, je n'allais pas dire agréable à vivre, mais moi, je les comprends, je les vois très bien. dans ma tête, je ferai revivre ces événements-là, parce que je me mets à leur place. Nous, on a vécu tout ce qu'on a pu vivre, c'était peut-être dur pour démarrer ou redémarrer, mais bon, on vivait, on venait de passer la guerre. La guerre a peut-être arrangé beaucoup de choses aussi, parce que ça adoucit la façon de se comporter, c'est encore autre chose. Moi, j'ai vu, étant gamin, on n'a pas connu la guerre ici. On a vu les soldats, naturellement, qu'ils soient allemands, américains. Bon, on voyait des gens de métier, mais on n'a jamais vu des coups de fusil.
Vous n'aviez pas évacué?
Si. Si, avec mes parents, on avait été dans la Nièvre. Pourquoi? Parce qu'il avait des amis dans la Nièvre. Puis en 40, bon, ben, on avait 14 ans, on montait tous en voiture et puis on a été jusque-là. Que mon père avait l'avantage à l'époque d'avoir une voiture. Et tout le monde n'en avait pas non plus. Mais il était jeune et puis il plaçait. Alors lui, il avait, c'est un autre détail que dont je ne devrais même pas parler. Mais il changeait de voiture en juin par la bourse. C'était un boursicoteur. Bien, vous voyez qu'à la bourse, aujourd'hui, peut-être qu'on mangerait les voitures, on ne les achèterait pas. C'est un détail entre tant d'autres. Mais bon, il nous a emmenés dans la Nièvre, puis on est revenu. On était combien, 8-10 jours partis. Mais on a évité les bombardements qui ont eu lieu sur la route, là, de Bussière et compagnie, où les Italiens bombardaient. On a évité ça. Ici, au monument, il y a deux tués qui ont été tués sur la route en évacuant. Des civils, quoi. Enfin, moi, je ne peux pas vous en raconter davantage. Ça fait déjà.
Vous vous souvenez de vos premières vendanges?
Oui. C'était pénible. Hein.
De.
À la hotte. Avec une hotte sur le dos. Ah ben. Vous savez, il y avait un avantage, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vendangeurs. On n'était pas nombreux, on était une vingtaine. Mais je vois mon beau-père, avant que je me marie, m'a fait essayer la hotte pour voir si j'avais des couilles au cul. Je parle français. Hein. Et il est vrai que j'avais jamais fait ça. C'est pas désagréable. Alors là aussi, on travaillait comme des martyrs. C'est malheureux à dire, j'emploie le terme. C'était dur, très très dur, pour un gars qui l'avait jamais fait, comme moi. Vous savez, je dis, si je mérite la fille comme ça, vraiment, ça va être difficile. Non mais, là, vous voyez, on va faire du théâtre pour finir.
Il n'y avait que des mauvais côtés?
Comment?
Il n'y avait que des désagréments?
Oh ben non, ça s'amusait mieux qu'aujourd'hui. Bon, les gens riaient, c'était pas pareil. Aujourd'hui, on vendange ou les vendangeurs travaillent pour faire leur journée, hein, qui tombe une paye. Tandis que là, on coupait les raisins. D'ailleurs, c'était la famille souvent. C'était des gens qui ne demandaient pas de rémunération pour autant. Et puis les surfaces, quand on pense à ce qu'il y avait comme surface, c'était simple à vendanger, hein, ça ne durait pas 15 jours. Mais il fallait quand même sortir tout à la hotte. Mettez ça dans des caisses, sur des voitures, à chevaux, là. Une voiture avec un cheval. Et puis, alors au pressoir, bon, les pressoirs, c'était des vieux pressoirs d'arc, quand je dis vieux, les pressoirs du temps, qui travaillaient très bien. Mais qu'il fallait rebêcher à la fourche. Hein, quand les raisins étaient serrés une fois, on relevait les tours pour que ça fasse, qu'on faisait une saignée, pour que le jus coule plus facilement, et ainsi de suite. C'était tout un art. Pas tout un art. Toute une façon de travailler du moment, avec les pressoirs du moment.
Et qui a disparu quand?
Oh. 80 par là. Les premiers pressoirs automatiques qu'on a eu ici, là, c'était en 80. Je me rappelle de l'année, comme le bâtiment. D'ailleurs, on les a installés quand les murs se montaient. Tandis qu'avant, on travaillait encore avec le pressoir. Et qu'on aurait de la. D'ailleurs, dont on a gardé les vestiges, qu'à, comment je dirais, qui vaudrait quelques monnaies aujourd'hui. Enfin, quand je dis quelques monnaies. Mais qu'on a gardé pour le plaisir.
Et donc, si on revient au moment où il y a eu l'explosion, comme vous dites, est-ce que les valeurs qu'on a changent? Est-ce que ce qui se passe avec l'entourage, avec le village ou plus, change? Est-ce que les relations changent à ce moment-là?
Très bonne question. Très très bonne question. C'est que depuis que le vignoble a évolué, les mentalités ont changé. Vous n'auriez plus à l'heure actuelle la même solidité de la camaraderie qu'il y avait certainement à mon époque. Parce que chacun se regarde marcher, ou alors plus vulgairement, veut péter plus haut que le trou. Et ça joue un rôle. On a embourgeoisé le vignoble à travers les moyens. Et ça, c'est ce que moi je ressens aujourd'hui. Il y a peut-être encore des gens qui échappent à ça, mais je veux dire, comme ma grand-mère, elle disait quel est le comble de l'imbécilité. Vous le connaissez, le comble de l'imbécilité? C'est de s'arrêter pour se regarder marcher. Et à un moment donné, ce qui empêche les gens d'avancer aujourd'hui, c'est un petit peu ce faux orgueil. Enfin, c'est. Je dis faux. Entendons-nous. Mais où les gens ont des moyens, il faut l'avouer, qu'on n'avait pas. Mais nous, si on les avait, on a voyagé aussi, mais si on les avait, on faisait moins sentir. On n'étageait pas. C'est comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher, et ici, les jeunes que j'aide, dont le fils drapier, c'est pas son cas. D'ailleurs, l'autre jour, ils en parlaient, que ce soit dans le vignoble, que ça soit, là, je cite Tétinger parce qu'ils le rencontrent souvent. Et puis, Michel est resté très, très honnête envers lui-même et envers les autres. Ça ne sert à rien de. Il n'y a rien de plus désagréable, comme j'ai dit tout à l'heure, de péter plus haut que le trou. Et la question que vous venez de poser, elle est très 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 juste, c'est qu'avec les moyens que le vignoble s'est peut-être procuré, s'est peut-être a fait sortir de terre, bon, ils ont peut-être raison, je n'en sais rien, d'en profiter justement. Parce qu'après ça, quand on a mon âge, on n'en profite plus. Ou comme j'ai dit, il faudra avoir deux vies, une vie pour travailler, l'autre pour la vivre. Mais bon, c'est peut-être un peu désagréable quelquefois, surtout vis-à-vis des professions extérieures. C'est toujours d'étaler des moyens que devant d'autres qui n'en ont pas. Un petit peu le résumé que je ferai de tout ça.
Parce qu'en fait, on a une région qui sort du paysage de Haut-Bois.
Voilà, exactement. C'est vrai que tout le monde le dit. Hein, vous l'avez entendu. On dit dans les vignerons. Mais les vignerons. Alors, est-ce qu'il y avait moyen de laisser ça un petit peu sous. Peut-être pas. À un moment donné, ça fait un petit peu comme avant la Révolution. Vous savez, c'est qu'à force d'étaler et de faire voir des richesses qui ne sont que momentanées, parce que. Vous savez, la richesse, elle est due dans le vignoble à quoi? Au prix de la terre. Moi, je connais en ce moment des vignerons qui vendent la terre. Hein, il y en a à vendre. Eh bien, vous savez, d'autres l'ont fait sortir de terre. Ils vendent ce que le grand-père a fait pousser. Et puis, ça, on ne vend qu'une fois. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, la seule valeur en Champagne, indépendamment quand on l'a fait fructifier, ça reste l'outil de travail, ça reste la terre. Moi, je vois, ça s'arrête là. Et il n'y a de richesse qu'à partir de la terre. Naturellement, tout dépend des hommes qui sont en fonction. Mais C'est un petit peu comme à l'école, comme je disais tout à l'heure, on avait des instituteurs ou professeurs qui étaient une richesse même pour la jeunesse qui montait, qui était la nôtre, mais où on nous a appris, il y avait l'instruction civique, il y avait, vous savez, il y avait. Non. Oh. Et on n'est pas mort, hein? Oui, moi je dis, il y a des richesses que de la terre. Et ce qui sort, puis dans n'importe quelle profession qui dérive du sol. Hein, on dirait même, je sors de la vigne pour aller à la betterave à sucre. Mais la betterave à sucre, c'est une richesse. Ça, et puis j'en passe.
Mais le prix de la parcelle et l'évolution du prix de la parcelle.
Trop cher. Il faut 25 ans aujourd'hui, qu'est-ce que je dis? 50 ans pour amortir une parcelle de vigne. Alors vous croyez que c'est sérieux? Pas du tout. Alors, il faut avoir les moyens. Soit vous avez déjà un capital qui vous permet d'absorber telle ou telle parcelle. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui va absorber? On va revenir comme au temps des seigneurs, c'est Mouette qui va acheter. Mouette va acheter ici, va acheter là, achètera. Au fur et à mesure qu'il va se présenter des exploitations à vendre, le vigneron n'aura plus le droit de toucher à quoi que ce soit. Alors je ne suis pas pour autant, c'est pas de la politique que je fais là, mais on en viendra à s'interposer si on veut à laisser grossir des gens qui ont déjà, hein, qui font la mode et qui vendent je ne cite personne, hein, vous voyez un peu. Ça a été comme ça, nos parents l'ont peut-être subi, mais enfin, au jour d'aujourd'hui, vous avez des jeunes vignerons qui éventuellement demanderaient qu'à faire, mais vous ne pouvez pas acheter de la terre à 1 200 000 € l'hectare. Hein. Vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour amortir ça? Une vie. Donc c'est impossible. Et quand vous voyez, puisqu'on peut les citer, Mouette qui vient d'acheter Brezon à Colombey, cachette ici-là des exploitations, ben, alors personne ne s'interpose pour l'instant. Bon, il y avait les affaires, maintenant, bon, ils prennent le droit de tout. Hein. Et puis moi, je vois, je vous dis ça, vous le retiendrez, mais je pense que ça ne s'arrêtera pas. Ouais. Des gens comme nous autres, on est déjà assez, on n'est pas mince, mais je veux dire par là qu'on n'aurait plus le droit de toucher une parcelle. Hein. Ou alors si on se l'offre, ça sera un bijou. Grossir d'un hectare, oui, d'accord, peut-être, et après. Mais pour des jeunes qui démarrent, c'est impossible.
Et pour la transmission?
Alors là, c'est l'autre problème. Justement, il faut y penser aussi, il faut le préparer d'avance. Si en société, des parts de société, bon, ça se trouve. Quelquefois d'évaluer obligatoirement tout en n'en tirant pas trop bas parce que l'administration vous redresserait. Mais bon. Mais ça ne sera pas facile.
Et vous y avez pensé quand à la transmission?
Ben, elle est déjà faite pour l'instant pour un. Alors Michel commence à incorporer les jeunes qui ont 15 à 22 ans. Bon, avant, il faut savoir ce qu'ils veulent faire. Mais on suppose qu'on a une petite fille qui vendrait qui est prête à faire, à commercialiser du moins. Le garçon, bon, il est à l'école de Beaune, il va peut-être retourner dans une école d'ingénieur en Suisse. Il vient d'avoir un accident de voiture, là. Il a passé par un tout petit chemin. Je ne sais sais pas si on nous courant d'air, j'en ai mal la gorge de parler.
On va s'arrêter.
Hein?
On va s'arrêter.
Oui, oh non, je pense que si vous aviez quelque chose d'extraordinaire à dire, voilà, j'aimerais que sur tel ou tel sujet, je suis prêt. Bon, j'ai parlé beaucoup, j'ai raconté ma petite vie.